19h, Time Sport, avec Alexandre Seban sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bienvenue dans Time Sport, votre émission qui vous parle de tous les sports du lundi au vendredi sur Beurre FM de 18h à 19h. Il fait très chaud aujourd'hui, on va essayer d'être en forme, souriant, énergique, empathique. En tout cas, on a un super plateau évidemment aujourd'hui comme chaque jour. Mais en plus, aujourd'hui, on a une superbe invitée, super sympa, avec un sourire immense, tel le soleil. C'est normal, c'est la saison, on est en plein été. C'est normal, le soleil comme sourire. Hein. Allez, c'est parti, on va parler de quoi aujourd'hui? Du PSG Barcelone, la guerre encore entre les deux clubs. Mais c'est pas au sujet de Neymar, cette fois, on va vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. On va évidemment évoquer le cas d'Antoine Griezmann. Il joue au Barça, mais il pourrait ne plus jouer au FC Barcelone dans quelques temps. On va vous expliquer ça aussi dans quelques instants à cause de Javier Tebas, qui dirige la Ligue espagnole de football et qui nous a dit qu'il va peut-être faire sauter la licence d'Antoine Griezmann. Un petit mot de jeu, cette fois, en fin d'émission, puisque l'Euro des moins de 19 ans est arrivé aux abords des demi-finales et c'est l'équipe de France qui rencontre l'Espagne. Décidément, l'Espagne est partout aujourd'hui dans notre conducteur. Écoutez, on n'a plus qu'à découvrir ça maintenant. Go Time Sport.
Time Sport.
Rebonjour à tous et à toutes les amis. Time Sport, c'est parti avec un plateau de chic et de choc avec moi. Autour de cette table, Mamadou Lamine Mané. Comment ça va, Mamadou?
Très bien, Alex, très bien. Et puis, comme d'habitude, j'ai l'habitude de ramener le soleil, mais je crois que j'ai un peu chargé la mule aujourd'hui, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je vais tâcher de réduire la voilure, mais il me semble qu'il m'a dépassé le soleil. J'en ai trop ramené. Ça va très bien, Alex, ça va.
Juan José Dorado est à ma droite. Comment ça va, mon cher Juan José? ¿Cómo estás? À quelques heures d'une demi-finale d'importance.
Hola, buenas tardes a todos. Pues con calor, evidentemente. Alors on va changer au français. Il fait chaud, c'est vrai. Mais on attend cette demi-finale entre la France et l'Espagne. Déjà, mon pronostic, c'est l'Espagne qui va gagner.
Évidemment. Et Farid Roas, comment ça va, Farid?
Très très bien, très content d'être ici. Je reprends la balle de José et pour moi, c'est la France qui va gagner.
Eh ben, tu fais bien de le préciser. C'est important et pour l'instant, on va rester dans cette petite guéguerre franco-espagnole. Puisqu'une fois encore, le PSG a fait des misères au FC Barcelone. C'est le ras-le-bol du jour.
Time Sport, le ras-le-bol.
La guéguerre continue, on l'a dit. Le PSG arrache un jeune au Barça. Cette fois, donc, ça ne concerne pas Neymar, mais un jeune de la Masia. La presse catalane nous en a parlé il y a quelques heures. Le néerlandais Xavi Simons, 16 ans, est en route pour le Paris Saint-Germain, chers amis. Ce grand espoir du centre de formation a déjà fait ses adieux au Barça sur Twitter, donc c'est vraiment sérieux. Un jeune prodige, en tout cas, hein, nous dit-on, que ce soit côté espagnol ou côté français, en tout cas dans la presse française, c'est comme ça qu'il est présenté. Il a un agent ultra connu, Mino Raiola, excusez du peu. Et oui, encore lui. Qui sait. Et a priori, voilà, il décide de s'en aller du Paris Saint-Germain, lapsus, excusez-moi, non. Du FC Barcelone, c'était déjà le cas il y a quelques années pour un autre jeune, Keys Ruiz Atil, qui avait 13 ans à l'époque, c'était en 2015. Alors que se passe-t-il? C'est la fuite des cerveaux au Barça en direction du PSG. Comment on l'explique ça, Mamadou?
Bah écoute, ce qui est quand même bizarre, c'est qu'un club comme Barcelone, une institution comme Barcelone, n'arrive pas plus tôt, à un moment donné, à cadenasser ses prodiges, enfin... potentiel prodige, et que bon, là c'est Paris qui est à l'affût, mais il me semble que c'est pas la première fois qu'un club soit à l'affût d'un contrat qui n'est pas signé. Et Barcelone qui fait de sa force justement sa formation d'avoir des très jeunes joueurs pour les former et les emmener à l'excellence, c'est quand même, j'arrive pas à comprendre comment à un moment donné on peut justement, surtout à la plus forte raison sur des joueurs à forte valeur comme ça, laisser passer une faille juridique dans laquelle d'autres clubs puissent venir s'immiscer. Alors après, pour le coup, à Paris, je dirais que Paris joue bien le coup. Paris est malin. Et c'est la guéguerre. C'est de bonne guerre, plutôt. Parce que à ce niveau-là, il n'y a pas de cadeau. On n'est pas chez les bisounours. Et Paris profite des failles de Barcelone. Mais je me pose des questions sur les failles juridiques. Un club comme Barcelone, que je ne comprends pas qu'il arrive à laisser passer ces jeunes pour qu'ils puissent partir ailleurs. C'est ça, je ne comprends pas.
Surtout que le Barça donc, avait déjà perdu le petit Kays Ruizatil il y a quelques années.
Bien sûr.
Il y a quelques semaines, on avait appris que cette fois, ce n'était pas le PSG, mais le Real Madrid qui avait shippé le Messi japonais Kubo au FC Barcelone.
Voilà.
Je vais reposer la question à mon ami qui est à ma droite, à la derecha, comme on dit en espagnol, Juan José Dorado. Comment est-ce possible?
Mais c'est pas.
Comment? Je traduis pour les auditeurs. Pourquoi? Comment est-ce possible que le PSG arrive à shipper à cette institution
déjà, parce
comme
que
l'a dit
Mbappé? C'est pas une faille juridique.
C'est un choix.
Il y a quelques années, bon, déjà, on sait qu'on peut pas faire signer des contrats aux joueurs quand ils ont moins de 16 ans.
Moins de 16 ans.
Donc, il vient d'avoir 16 ans. Donc, il a le droit de pouvoir partir. D'ailleurs, ce qu'il a fait, il a signé un contrat à ses 16 ans pour 3 années, 120 000, 150 000 et 200 000 euros pour chaque année, qui est le PSG prêt à payer pour ce joueur qui a quand même plus d'un million de followers dans son Instagram. Il faut le signaler.
On me dit 1,7 million dans l'oreillette.
Donc, c'est un joueur, mais c'est aussi un produit marketing. Et je vais m'expliquer. Pourquoi c'est pas une faille juridique? Il y a quelques années, le FC Barcelone, effectivement, il y a beaucoup de joueurs, des jeunes joueurs de la Masia qui sont partis, notamment en Angleterre et en Italie. Le FC Barcelone a voulu faire signer une clause des 100 millions d'euros pour des dommagements s'il venait à partir, mais ils ne l'ont pas fait tout simplement parce qu'il y avait le risque, fort risque, que la FIFA dénonce cette clause. Donc il y a une clause qui est signée à partir de 16 ans, qui est des 3 millions, mais 3 millions d'euros pour un club comme le PSG, comme la Juve, comme Manchester City, comme n'importe quel autre club anglais ou italien, ou quelques-uns parmi les Français, mais rarement, peuvent payer ces 3 millions sans aucun problème. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'aujourd'hui, la Masia continue à former beaucoup, beaucoup des joueurs. Mais le problème, c'est qu'un club comme Barcelone, ça a été le cas par le passé avec le Real Madrid, n'a pas les mêmes débouchés pour ses grands espoirs du football. C'est le cas notamment pour notre ami Xavi Simons, qui a préféré peut-être être les stars parmi les jeunes du PSG à être un joueur des plus. Et j'ai bien dit des plus, parce que dans cette même équipe où il joue cette année, du côté de Barcelone, il y a deux joueurs qui ont signé avec les juniors, le CRIP Junior A, et lui, on lui a proposé au mieux de jouer avec le Junior B.
Ah.
Donc, il y a aussi derrière un aspect sportif.
Vous voulez dire qu'il y a un peu un trop-plein?
Il y a un trop-plein et il y a un aspect sportif. La direction sportive du Barça considère qu'il a 16 ans, qu'il n'a pas encore fait, il a terminé son développement physique et donc c'est trop risqué de signer une clause comme exigé ses parents, ses représentants, notamment Mino Raiola, en posant des joueurs sur le Junior A et avec une date pour intégrer le Barça B en deuxième
donc,
division.
Si je résume, en gros, le gosse a un melon pas possible à 16 ans, sous prétexte qu'il ne peut pas intégrer la juvénile A.
Tout à fait.
Et ben, il dit ah ben, je m'en vais.
Il y a deux
en
joueurs.
En gros, c'est le gosse qui pète un câble.
Pas pète un câble, il a décidé. C'est du business, hein, on l'a toujours dit, c'est du business. C'est un mec qui, effectivement, a 1,7 million, tu précisais, de followers sur Instagram. C'est un problème.
Sur Facebook.
Ça fait gonfler la tête, en fait, 1,7 million.
Produit marketing énorme. Le Barça est tout à fait conscient, mais en même temps, et sportivement parlant, ils ont préféré faire monter en U17 ou 18 d'autres joueurs qui étaient avec lui dans la même équipe
et potentiellement meilleurs, ça veut dire
potentiellement meilleurs, puisque l'un d'eux d'ailleurs a déjà joué un premier match en première division avec le FC Barça.
Farid, ton avis là-dessus?
Ben moi j'aimerais surtout mettre en avant le bon travail de scouting et le bon travail du Paris Saint-Germain pour une fois. Jusqu'à présent on notait dans les journaux, dans les médias le départ de jeunes de centres de formation du Paris Saint-Germain, on comprenait pas pourquoi.
Maintenant c'est dans l'équipe première que les jeunes s'en vont.
Oui,
apparemment.
Oui, oui, tout à fait. Mais
Adrien Rabiot, si tu nous écoutes.
Rabiot et j'en passe, Claudio Gomez et d'autres. Et jusqu'à présent, on ne comprenait pas comment le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à les convaincre à rester et à leur donner leur chance, surtout leur chance en équipe première. Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain a été de nouveau bon avec ce jeune, en espérant que ça soit vraiment un jeune d'avenir. Pour rebondir sur ce que vient de dire José, comme quoi, a priori, ce petit jeune voulait être la star au Paris Saint-Germain, ce qui peut-être n'aurait pas pu se faire au Barcelone. J'espère que ça ne va pas prendre la même tendance que Neymar. Faut pas oublier que Neymar est venu au Paris Saint-Germain car il voulait être à la tête de gondole.
Et on peut... qu'il a été.
Oui, bon, pour l'instant.
À quel prix?
À quel prix? Et jusqu'à présent, il n'a pas répondu présent dans les matchs importants.
C'est vrai.
Espérons qu'il aura une autre.
Il a été blessé, surtout, le pauvre.
Un autre avenir. Mais bon, le petit Simons est encore jeune. On ne va pas trop lui en demander tout de suite.
Mm-hmm. Messieurs, cette affaire, une fois encore, entre le PSG et le FC Barcelone, n'ayez pas peur que. Pour un certain Neymar dont vous venez de parler, bah, ça sent un peu le roussi. Mamadou, est-ce que ça va faciliter une fois encore les relations entre les deux clubs, l'envie de se parler?
Les relations avec les deux, entre les deux clubs sont déjà très tendues depuis, ça remonte à Verratti, donc on commence déjà les petites bisbilles qu'il y avait avec le transfert.
Tentative.
Tentative d'approche de Barcelone. Et c'est sûr que c'est encore une couche qu'on remet sur le millefeuille, à savoir que là, si demain Paris doit négocier pour le départ potentiel de Neymar, ce ne sont peut-être pas des choses qui vont faciliter les discussions. Après, je pense que quand on arrive à ce niveau de discussion avec les enjeux financiers qui en découlent, les enjeux sportifs aussi derrière, je pense qu'ils peuvent enterrer légèrement la hache de guerre, la mettre ou le couteau, le ranger sous la table pour pouvoir discuter du cas Neymar s'il faut en discuter, parce que là, je pense que c'est vraiment un écueil pour Paris et tout le monde veut essayer de trouver une porte de sortie honorable, aussi bien le clan Neymar, aussi bien Barcelone s'il doit aller à Barcelone et surtout le PSG qui ne veut pas perdre la face. Donc, je pense que on est entre personnes intelligentes et c'est pas peut-être cet épiphénomène avec parce qu'il y en aura d'autres. Hein. On parle de Simon, on a parlé du cas de Kais Ruiz. Il y en a encore d'autres plus tard. C'est des choses qui sont amenées à se renouveler. Je pense qu'ils seront assez intelligents pour pouvoir derrière négocier Neymar si tout le monde y trouve son compte. Donc, je ne pense pas que ça puisse nuire aux futures transactions ou négociations qu'il y aura sur le cas Neymar.
Juan José, on a appris là il y a quelques heures que le FC Barcelone avait réalisé un chiffre d'affaires incroyable, 990 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, que les gens comprennent bien, le chiffre d'affaires, c'est pas les bénéfices. Hein. C'est-à-dire, il reste pas 990 millions dans la poche, non. Sinon on comprendrait pas pourquoi Neymar et compagnie seraient pas déjà arrivés au FC Barcelone. C'est tout simplement que la balance entre le chiffre d'affaires et les dépenses, il reste grosso modo 4 millions, on nous a dit, net, dans la poche du FC Barcelone. Ceci étant, c'est un club ultra riche qui draine évidemment énormément d'argent. Là, on est dans la brouille avec le PSG sur le cas du petit Xavi Simons. Mais est-ce que en Espagne, on a complètement ou presque déjà oublié le potentiel retour de Neymar au Barça?
Et pas plus tard qu'hier, il y a eu des déclarations des membres dirigeants du FC Barcelone disant qu'il n'y avait pas de cas Neymar du côté de Barcelone. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que il y a très peu de clubs aujourd'hui qui ont la assise financière nécessaire pour pouvoir amener Neymar. Surtout quand vous entendez le PSG demander autour des 300 millions. Donc ça, c'est la première chose. Le FC Barcelone pourrait le faire avec effectivement le change. On prétend ou en donnant aussi deux joueurs. Mais c'est pas le cas. Ce qu'on oublie souvent, et c'est ma thèse depuis le début, c'est qu'il ne peut pas retourner à Barcelone tout simplement parce que la plupart des supporters du Barça ne veulent plus de Neymar. Tel qu'il est parti de Barcelone, ils ne veulent plus de Neymar.
Mais est-ce
vestiaire le veut pourtant?
Non, le vestiaire, c'est Messi.
Et Suarez.
On s'arrête. Non, mais.
Mais Messi, déjà, ça compte.
Bah oui,
parce que Messi, le Barça sans Messi, ça n'existe plus.
Il ne faut jamais oublier quelque chose d'important aujourd'hui du côté de Barcelone. Vous savez que le FC Barça, comme le Real Madrid, ne sont pas des sociétés sportives.
Mais socios.
C'est des associations.
Et qu'en disent justement, c'est peut-être ça la vraie question.
Il y a des socios.
Que nous disent les socios du FC Barcelone?
Ils ne veulent pas de Neymar. Ils ne veulent pas de Neymar parce qu'il est parti en claquant la porte et ils ne veulent
plus
l'avoir. Voilà, ouais, c'est la raison. De la même façon.
Et même pour Messi, ils n'ont pas envie de faire un geste.
Non, je ne pense pas sincèrement. Tous les enquêtes qui ont été faites par Diario Sport, etc., ne veulent pas de lui. Et puis, n'oublions pas non plus quelque chose, c'est que le président du FC Barcelone est en très mauvaise posture depuis le départ de Messi. On lui reproche de ne pas avoir su éviter le départ de Neymar. Donc il est dans une situation très précaire depuis 2 ans et demi. Et Bertomeu essaye, tant qu'il se peut, de sauver sa tête, parce qu'encore une fois, ce n'est pas des actionnaires, c'est des socios, c'est des votants qui vont aller voter, et donc il essaye de sauver sa tête. Et donc peut-être amener Neymar serait un plus, je ne le pense pas, c'est pour ça qu'en même temps, financièrement, quand vous avez 120 millions payés pour Griezmann, quand vous avez Ousmane Dembélé qui est arrivé il y a deux ans, quand vous avez
ils sont pas partis Coutinho encore, ceux qui ont coûté cher.
Je veux dire, ce n'est pas non plus un portefeuille.
En 30 secondes, avant de redonner la parole à Mamadou pour la conclusion, si cette année le FC Barcelone se plante en Ligue des Champions, Bartomeu va voir les petits mouchoirs blancs s'agiter dans le...
Ça, c'est très probable, ouais. Mais il faudrait attendre quand même les élections, donc à la présidence du...
Il n'y a pas possibilité de départ anticipé. Les socios qui tapent du poing sur la table et dire basta cosi.
Il peut toujours démissionner.
Il pourrait démissionner. En cas d'échec cette année, c'est possible.
Il pourrait démissionner, mais ça paraît très peu probable.
Mamadou, tu voulais intervenir sur la fin avec Neymar, c'est ça ?
Non, en fait, je pensais que Samira voulait dire quelque chose, en fait. Non, mais...
On va lui donner la parole dans quelques heures de
soirée. Si, parce que je la vois depuis tout à l'heure, elle trépigne, elle veut dire quelque chose, donner son sentiment
sur... Ah bah alors, excusez-moi. Mais parce que je ne l'ai pas introduite comme il se doit, on va avoir un gros quart d'heure, 20 minutes après pour elle.
Je vais faire un petit tacle glissé. Non, mais en fait... Juan José vient de le résumer de belle manière, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, il y a beaucoup de supputations autour des rumeurs sur Neymar et autres, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup d'écueils, il y a beaucoup d'objections pour son retour, même si c'était le cas. Et on voit même que le désir d'un Lionel Messi ne ferait pas pencher la balance, parce que les socios, ce sont les actionnaires. Enfin, c'est pas les actionnaires, mais c'est eux qui, en grosso modo, qui on voit au chapitre pour donner un peu, pour diriger dans les moments charnières comme ça. Et un président ne peut pas s'opposer aux socios, c'est pas possible. Si demain les socios, dans leur grande majorité, ne veulent pas du retour de Neymar, Bartomeu, qui en plus n'a pas eu des résultats escomptés en Ligue des Champions, on l'a vu, jamais il se les mettra à dos. Et financièrement, sportivement, est-ce que sportivement il amènerait quelque chose aujourd'hui ? Ça, on peut se poser la question. Donc, toute cette affaire-là, pour revenir à notre sujet, je ne pense pas que effectivement le cas Neymar puisse cristalliser assez de choses pour que voilà, c'est les suites à donner avec par exemple l'affaire de Xavi Simons. Ça n'aura pas d'effet dessus, parce que Neymar ne sera pas en balance dans cette discussion.
J'ai vraiment de plus en plus l'impression que le retour de Neymar à Barcelone, c'est un fantasme français, franco-français,
oui, je pense.
Penser qu'il y avait possibilité, finalement, c'est pas possible.
Il y a d'autres pistes, on parle de City.
Allez, on revient dans quelques instants, Amadou, à tout de suite.
18h-19h, Time Sport, avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport, avec Alexandre Seban sur Beurre FM.
Eh ben nous voilà de retour dans le studio parisien de notre superbe radio Beurre FM, les amis. Dans Time Sport, on a encore pas mal de temps devant nous pour parler un petit peu de football. Et puis on ne parlera pas par contre du Tour de France, juste pour vous dire que c'est l'Italien Trentin, si je ne dis pas de bêtises, qui est arrivé le premier au sommet à Gap de la 17e étape. On se rapproche petit à petit de la fin de ce Tour de France. Et c'est toujours Julien Alaphilippe, le Français, qui est en jaune. On en parlera peut-être d'ici la fin de semaine. On ne sait jamais, des fois, qu'il y a un Français qui remporte un truc fois en vélo. Ça peut être sympa. Et puis ça peut nous... Il faut marquer le coup, quoi. Il faudra faire une émission spéciale lundi prochain, alors qu'on sera en vacances.
Voilà.
La deuxième partie, maintenant, de l'émission, plus sérieusement, les amis, c'est l'incroyable Mévray.
Time Sport.
Incroyable mais vrai, mesdames et messieurs, on a une invitée qui a un CV long comme le périphérique parisien, et en plus, elle est porteuse de la Légion d'honneur. Alors pas là, ou à moins que c'était sur la veste.
Non plus.
Ça va venir. Samira Djouadi, bonjour. Merci en tout cas d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour Alex.
Vous êtes déléguée générale de la Fondation TF1, présidente de l'agence de communication Nouvelle Cour, cofondatrice de l'association Sport à vie, et par décret, me dit-on, du président de la République française, je précise, en date du 13 juillet 2019, promu au grade de chevalier de la Légion d'honneur.
Ah ouais, ça le fait, non ?
C'est pas mal. Rien que de le dire, ça a de la gueule. Moi, j'ai pris 10 ans là-dedans. Bon, déjà, merci d'être avec nous, Samira, une fois encore. Et ma première question, tout simplement, puisque tout le monde ne vous connaît pas forcément à travers nos micros, derrière leurs postes, nos auditeurs, nos auditrices, présentez-vous un petit peu. Voilà, dites-nous d'où vous venez et qui vous êtes en quelques mots avant de démarrer les autres questions.
Alors, je m'appelle Samira Djouadi, donc effectivement, je suis la déléguée générale de la fondation du groupe TF1 que j'ai créé pour le groupe il y a 14 ans maintenant. Donc, je suis issue de Seine-Saint-Denis, j'y suis née, j'ai grandi sur la ville d'Aubervilliers, donc j'y ai fait mes classes, j'ai aussi pratiqué du sport au club du CMA, où il y a le club de foot d'ailleurs.
Quel sport ?
je faisais de l'athlétisme. Donc de l'endurance, parce que je le savais pas à ce moment-là, mais la vie était pleine de patience et l'endurance, je pense que c'est la bonne voilà, c'est la bonne énergie pour supporter en tout cas toute cette vie. Et donc voilà, donc j'ai enseigné à la Courneuve le sport aux jeunes énormément. Ensuite, j'ai créé cette association effectivement qui s'appelle Sport à vie avec mon mari pour justement permettre à ces jeunes de rêver, et toujours autour du sport, parce que qui ne rêve pas d'aller vivre une Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques. Et on a fait ce pari-là depuis 19 ans avec mon mari pour donner l'opportunité à ces jeunes des quartiers d'aller les vivre. Mais pour aller les vivre, il faut construire. Et construire, c'est eux qui doivent construire pour leur apprendre que, en fait, le rêve, c'est possible quand on se met à travailler ensemble, quand on se met à travailler dans le collectif, parce que le collectif est important pour réussir. Et aujourd'hui, on a des pépites qui sont sorties de ces programmes-là, qui reprennent confiance, qui disent que le rêve, finalement, c'est pas parce que j'habite dans un quartier que je ne peux pas réussir. Et donc, tout ça a fait qu'à un moment donné, ben voilà, ça a permis à ces jeunes de se dire, ben moi aussi, ça aussi, c'est pour moi, c'est pas que pour les autres, etc. Ensuite, ben, cette association m'a permis d'intégrer le groupe TF1. Donc on m'a débauché, hein, on m'a demandé de venir mettre toute mon énergie au sein du groupe, et c'est là où j'ai proposé de créer cette fondation qui a sa particularité, puisque c'est une fondation très active, puisque on a pris le parti pris de s'intéresser aux jeunes des quartiers, comment les insérer dans notre groupe, comment les accompagner dans leur projet de vie professionnelle. Et aujourd'hui, comme on est dans une émission de foot, Jean-Marie Bakayoko, hein, que beaucoup de monde connaît, qui présente l'équipe de France chez nous à TF1, sort de la fondation et aujourd'hui est devenu un journaliste plus qu'à part entière, parce qu'on a su détecter en lui les compétences qu'il avait. D'ailleurs, souvent, je dis, chez moi, c'est mieux que le centre de formation de Clairefontaine, parce que quand je les détecte, ils sont tous brillants et tous font une carrière, etc. Donc voilà, donc moi, je dirais, mon leitmotiv, c'est comment accompagner les autres. Peut-être parce que j'ai un peu plus d'énergie que d'autres, peut-être parce que mon réseau, j'ai su l'étouffer. Et de permettre
l'étoffer
aussi.
Il n'y a plus personne qui va venir à TF1, je peux vous le dire, moi.
L'étoffer, exactement. Je dirais, dans le partage, souvent, je dis, à quoi bon avoir un réseau si c'est pour se le garder dans ses poches et se dire, je connais la terre entière. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que tu connaisses la terre entière? Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu sais le partager, comment tu peux l'offrir à quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de ta religion, qui n'est pas de ta nationalité. Mais ce gamin ou cette fille, demain, te sera hyper reconnaissante parce qu'un jour, tu lui as ouvert les portes sans lui demander quelque chose en échange, et ne serait-ce que, voilà, de lui dire, vas-y, et demain, fais la même chose toi aussi quand tu seras en poste, quand tu auras développé ton réseau. Donc voilà, tout ce que j'ai construit, c'est permettre aux autres d'y aller et de se dire, on doit être une vraie chaîne humaine, on doit pouvoir être dans le partage.
Et à quel moment vous vous êtes vraiment décidé de créer Sport à Vie? À quel moment vous avez senti dans votre parcours qu'il y avait autour de vous peut-être des jeunes qui n'y arrivaient pas et qui ont essayé et qui ne croyaient pas assez en eux pour réaliser leurs rêves? Qu'est-ce qui vous a donné le déclic?
Ce qui m'a donné le déclic, c'est quand j'enseignais le sport et que j'étais confrontée à ces jeunes des quartiers qui me disaient en face à face, nous de toute façon Samira, on est né dans les quartiers, nous on réussira jamais, parce que et en plus ils avaient les bonnes réponses, hein, ils avaient les justificatifs qui expliquaient que effectivement on était dans un fatalisme ancré. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et puis si on se met tous à ne rien faire, on va continuer comme ça de génération à génération à colporter cette chose de se dire, de toute façon, on est né dans un quartier. Mais je suis désolée, le quartier, c'est pas mon identité, c'est pas mon énergie. Et c'est là où un jour, je décide d'arrêter d'enseigner et de me dire, je vais créer Sport à Vie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Sport à Vie. C'était une manière de dire, vous devez être acteur aussi de votre vie et de se dire à ces gamins, si tu peux être bon, si tu peux être brillant, ok, t'es pas né dans une famille avec une cuillère en or, mais tu peux construire ta vie. Voilà, tu peux la construire si t'as la niaque, si t'as la motivation. Et après, les choses se sont fait crescendo. Et je dirais, mon parcours, il a été développé grâce à des personnes que j'ai rencontrées, qui sont devenues mes mentors, qui ont cru en mon énergie, à ma motivation, et qui ont fait que j'ai pu construire tout ce que j'ai pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui.
Eh bien, vous avez très bien fait. Et on le sent, en tout cas. On la sent, cette énergie. Vous êtes rayonnante et vous transmettez j'imagine, à nos auditeurs et aux auditrices, l'envie, voilà, de se lancer, de se dire, allez, nous aussi, on peut y arriver. La preuve, regardez, moi, je suis de Sarcelles et je suis là devant vous aujourd'hui.
Voilà.
On peut arriver. Farid, une première question pour notre invité.
J'en aurais peut-être même deux. J'aimerais savoir déjà, vous mangez quoi tous les matins? Parce que vous avez une telle pêche que j'aimerais prendre la même chose que vous. Dès demain, d'ailleurs.
Bœuf bourguignon.
Je suis pas certain. Et ma deuxième question, donc, vous avez été débauché par TF1, étant donné que jusqu'à ce moment-là, vous étiez assez autonome et tout. Est-ce que finalement, vous avez gardé cette souplesse, cette liberté, même en arrivant à TF1?
Alors, ce que je prends tous les matins, c'est de l'eau chaude avec du citron.
Très
voilà,
bien.
Le secret. Et effectivement, et je pense que si j'avais pas gardé ma façon d'être, mon caractère, ma spontanéité, je pense que je serais partie très vite. D'abord parce que c'est ma façon d'être, c'est mon énergie qui est comme ça. Et je pense que eux sont habitués à moi. Au début, c'était très difficile, hein, parce que d'ailleurs au départ, on me disait c'est un électron libre. Qui est le pilote de cet avion? Chez moi, je suis en automatique. Il y a pas de pilote, c'est moi le pilote. Et ça, dans les boîtes, c'est vrai que c'est difficile. On a du mal à accepter que quelqu'un puisse être spontané, différent et aussi performant. Puisque une preuve, hein, si 14 ans après, je suis toujours à TF1, c'est que quand même, je dois faire un petit peu du bon boulot. Mais effectivement, ça fait peur. Après, c'est à moi de rassurer. Et en même temps, si je ne mets pas cette énergie-là, on parle de social, là, on parle de jeunes et je vous parle de 14 ans. Il y a 14 ans à TF1, on était en haut de la pile. On n'en avait rien à foutre de la diversité. On était loin de tous les problèmes de banlieue, etc. On était peut-être à l'aube de 2005 où ça commençait à brûler, etc. Mais voilà, c'était la chaîne numéro 1 avec pratiquement 65% de parts de marché. Donc, on avait d'autres problématiques que de s'occuper d'un problème sociétal. En plus, il ne faut pas oublier, on est une entreprise privée. Nous ne sommes pas France Télévisions, on n'est pas public. Donc, on n'a aucune obligation de s'engager vers ces jeunes, etc. Et je pense que c'est là où je me dis, dans une entreprise, on a quand même affaire à des humains, quoi. Des gens qui, en dehors de la boîte, vivent. Et je pense qu'ils avaient aussi besoin d'une Samira qui les embarque. Moi, souvent, on me disait, Samira, moi, j'ai pas toute l'énergie que tu as. Par contre, je veux bien être ton wagon. D'accord. Je veux bien m'accrocher et t'aider s'il faut ouvrir des portes. Et moi, je ne demande que ça. Moi, il n'y a pas de souci. Je vais aller défoncer les portes, les fenêtres, etc. Mais j'ai besoin d'être accompagnée. J'ai besoin d'être épaulée. Parce que demain, ces jeunes, quand ils vont intégrer TF1, c'est pas avec Samira Djouadi qu'ils vont travailler. C'est avec vous autres. Donc, il va falloir... Et d'ailleurs, souvent, au départ, on me disait... limite, quand j'écoutais certains, c'était presque du racisme. Et là, tu te dis, alors, tu as deux solutions. Soit c'est du racisme, tu te casses tout de suite. Soit c'est de la méconnaissance. Et là, tu as du travail à faire. Et j'ai préféré faire ça.
Okay. Juan José, à toi la parole.
Parlons justement des jeunes. Alors, comment est-ce qu'on détecte ces jeunes-là? Comment est-ce que vous les faites participer à la Fondation? Comment ça se passe dans le quotidien?
Alors, comment on les détecte? Donc ça, c'est mon réseau associatif avant de rentrer à TF1. J'ai travaillé beaucoup avec les collectivités, avec les associations, etc. Donc, je me suis appuyée d'eux pour justement aller les recruter parce que souvent, ce sont ces associations de quartier, ce sont les missions locales, ce sont les pôles emploi, les collectivités qui mettent en place des actions d'accompagnement pour ces jeunes-là. Donc, au lieu d'arriver avec mes grands sabots en se disant « Hey Samira, c'est TF1, on est les meilleurs. » Et là, je sais, l'accueil que j'aurais eu, ça a été de se dire « On va s'appuyer de toutes ces structures-là qui connaissent bien ces jeunes-là, qui les connaissent au quotidien, qui sont leur première interface. Et ensemble, on va travailler. Parce que si ce jeune réussit demain, par ricochet, c'est une belle vitrine pour son association. C'est une belle vitrine pour les jeunes de leur quartier qui vont se dire « Ah ouais, lui, il vient de mon quartier, il vient de mon association. S'il a réussi, ça veut dire que moi aussi, je peux aussi réussir. » Et donc, c'est comment fédérer tout cet écosystème. Parce qu'au final, l'objectif, il est commun à nous tous. C'est comment faire réussir ces jeunes-là. Donc, si on ne s'entoure pas d'un écosystème, on n'a rien compris. Hein.
Mais est-ce que vous cherchez que des journalistes? Est-ce que vous cherchez d'autres perfils, d'autres profils, justement, pour le faire intégrer, pour intégrer dans l'avenir le groupe?
Alors, les immigrés espagnols, par
exactement.
Exemple.
Voilà. Mais quels sont les profils qu'on cherche?
Exactement.
Est-ce que c'est que des journalistes?
Alors, au départ, c'était que les journalistes, parce que... Alors là, je parle à un journaliste. Hein, quand on m'a dit, oh, Samira, tu sais, métier de journaliste, un métier noble, hein, attention, hein. Tout le monde ne peut pas devenir journaliste. Je lui dis, ben justement, moi, je vais leur permettre d'être bien formés, d'avoir tous les codes qui font qu'à un moment donné, ils deviendront, comme vous, des personnes très nobles. Et donc, je me suis dit, si j'arrive à entrer par ce métier du journalisme qui est assez noble, demain, tous les métiers du groupe viendront. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Après, par ricochet, rapidement, au bout de 2-3 ans, j'ai tous les autres services qui sont venus me voir en me disant, Samira, moi, la compta, ça m'intéresse. Moi, la com, ça m'intéresse. Donc, j'ai dit, mais vous croyez que je suis...
Vous êtes devenue la RH, quoi. Voilà, la RH, quoi.
Et voilà. Et donc, et ben, tant mieux, parce que du coup, ça s'est fait naturellement. Et aujourd'hui, je dirais, TF1 ne peut plus fonctionner sans ce programme, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu l'ADN de notre entreprise.
C'est un petit peu votre victoire, et c'est du coup la victoire du jour.
TimeSport, la victoire.
C'était facile. Mamadou, à toi la parole. Présente, tu avais une question toi aussi pour Samira.
On a envie de courir. Enfin, s'il y avait une piste d'athlétisme, on se mettrait tous en short, quoi, parce que Samira est en train de parler, mais on a l'impression en même temps qu'elle est en train de courir. Non, mais cette énergie, elle est fantastique. Et moi, justement, je me suis renseigné un petit peu sur ce qu'elle a pu faire, sur son parcours. C'est bien, on vient tous les deux d'Aubervilliers, donc je peux le dire, je suis fier d'Aubervilliers. Mais une question, c'est qu'en fait, j'aimerais bien pour illustrer justement son propos et montrer sa ténacité, moi, j'aimerais juste qu'elle nous rappelle comment elle a fait pour être engagée à TF1, parce que elle l'a survolé, elle a dit oui, bon, on m'a pris, j'étais embauchée. Non, moi, je voudrais bien qu'elle puisse l'expliquer et savoir très rapidement, parce que bon, on n'a pas plus de 2 heures, mais de quelle manière elle a pu, de manière méthodique, régulière, se représenter jusqu'à être prise. Donc Samira, j'aimerais bien que tu puisses nous raconter ça.
Alors effectivement, donc quand j'ai créé cette association Sport à Vie, comme vous savez tous, hein, une association pour faire partir en 2002 80 gamins à Séoul à la Coupe du Monde, il me fallait des sous. Alors je suis pas héritière, ma maman était femme de ménage, mon papa ouvrier, donc il fallait bien que j'aille chercher l'argent ailleurs. Et là, j'ai une bonne idée. Alors, à l'époque, je ne savais pas que j'étais visionnaire. Aujourd'hui, je peux le dire. Je dis à mon mari, je sais qui va nous donner de l'argent. Il me dit qui ? Je lui dis TF1. Et là, il me dit, non, je crois que ça y est, t'as pété un câble, ma femme. Il va falloir que t'ailles te faire soigner. Je lui dis, si, je vais aller rencontrer le président de l'époque, qui était Patrick Lelay, bien entendu. On connaît tous un peu le caractère du président. Et là, j'appelle son secrétariat. Alors, on n'est pas à l'ère d'Internet, les réseaux sociaux. On était loin de ça quand même. Je vous parle, on était dans les 99-2000. Et là, j'appelle tous les jours le secrétariat de Patrick Lelay à la même heure. Et là, je dis, voilà, je vous appelle pour avoir des nouvelles de mon rendez-vous. La fille super sûre d'elle, d'avoir un rendez-vous. Et tous les jours, elle me répond, madame, désolée, on n'a pas de retour. Je fais, c'est pas grave, je rappellerai demain avec la banane au téléphone. Et au bout de 6 mois... elle m'appelle avec une joie extraordinaire en disant « Madame Djouadi, on a un rendez-vous pour vous ». Je me présente au rendez-vous, donc je suis heureuse. Et là, Patrick Lelay me met un coup de pression parce qu'en fait, il voulait plier le dossier, en fait. Et là, il me dit « Madame, j'ai 10 minutes pour vous ». Je lui dis « Ça tombe bien, monsieur, j'en ai pas plus pour vous ». Là, il se dit « Non, mais elle est culottée, celle-là ». Il me fait rentrer dans son bureau et on reste 1h30 à échanger dans son bureau parce que je pense qu'il a été impressionné d'abord de fait qu'il se dise « Mais celle-là, elle a pas peur ». Et puis surtout, elle se bat pour les autres, quoi. Elle vient pour des jeunes, elle vient avec un discours cohérent de ce qu'elle a envie de mettre en place. Et en fait, cette collaboration, elle a été tellement forte qu'il est devenu un peu mon mentor et qu'il m'a accompagnée. Et c'est là, au bout de 3 ans de partenariat, un jour, il m'appelle et me dit « Écoute, Samira, il faut que tu viennes mettre ton énergie chez nous ». Je lui dis « Mais t'es dingue, moi j'ai pas envie de travailler à TF1, moi je veux faire du social, moi je suis bien dans les quartiers, etc. » Et là je lui dis « Mais pour faire quoi ?» Il me dit « Pour être commercial à la régie. » Il me dit « Si t'as réussi à me prendre de l'argent à moi, tu peux en prendre à tous les annonceurs de la régie. » Et là je me dis « Si je lui dis non, c'est des gens qui ont un peu d'ego quand même, hein, je vais le vexer. » Et là je reviens avec un deal, je lui dis « Écoute Patrick, ok, je vais apprendre le commercial, tu vas être fier de moi, parce que moi j'aime pas qu'on soit pas fier de moi. Par contre, il n'y a pas de fondation à TF1, je veux être celle qui te crée cette fondation. » Et là, il me dit « Banco, tu es la meilleure personne pour nous conseiller. Nous, le milieu associatif, nous ne connaissons pas et j'ai confiance en toi. » Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai créé mon emploi et j'ai adoré le commercial, il a eu raison.
voilà, je savais que ça allait te clouer le bec.
Ça m'a cloué le bec. J'aurais dû faire comme ça, moi aussi, à l'époque. J'aurais peut-être eu un emploi. Non. Quels sont vos projets, sérieusement, maintenant pour la suite de votre carrière à TF1, d'une part, et puis avec cette association Sport à Vie, quels sont l'avenir de ces deux fonctions?
L'avenir, d'abord, pour Sport à Vie, l'année prochaine, il y a les Jeux Olympiques au Japon. Donc, on prépare justement ce projet sur le Japon où on aimerait, pour la première fois, ce qu'on n'a pas encore fait depuis 19 ans, c'est de créer des couples d'enfants valides et non valides. Donc, pour la première fois, on emmènerait avec nous des enfants handicapés. Alors, on ne sait pas quel type d'handicap on est en train de réfléchir. Et puis, l'idée, c'est comment créer ce couple d'enfants pendant un an ensemble, d'abord pour se côtoyer et ensuite partir au JO ensemble. Voilà, donc ça, c'est le projet Sport à vie sur lequel on va démarrer à partir de septembre pour partir au mois d'août l'année prochaine. Et pour la fondation, on monte plein de projets.
Vous avez déjà trouvé le remplaçant de Jean-Pierre Pernaut ou pas?
Pas encore, parce que Jean-Pierre, franchement, on l'aime trop.
J'aime beaucoup. Mes parents regardent tous les midis depuis 25 ans.
Tous les parents de la planète, voilà. Je crois. Tous les parents adorent Jean-Pierre.
Il y a Jean-Marie.
Et Jean-Marie.
Et Jean-Marie Bagayokou, qu'on a déjà croisé personnellement.
C'est mon poulain, Jean-Marie. C'est mon petit poulain. Et pour la fondation, on essaye de toujours, en tout cas j'essaye de mettre en place des actions toujours pour nos jeunes, et en l'occurrence un que j'ai créé il y a 5 ans qui est en train de prendre une ampleur incroyable, c'est sur les stages de 3e où j'ai réinventé le stage en faisant du stage collectif inter-entreprise, et j'ai dû créer une association parce que les entreprises ont trouvé l'idée super, à tel point que aujourd'hui j'ai plus de 100 entreprises adhérentes et on a pu organiser 90 semaines l'année dernière partout en France. Donc voilà, dès qu'il y a une bonne idée parce qu'il y a une problématique, je fonce.
Farid, je voulais poser une dernière question.
C'est vraiment formidable, Samira, pour votre parcours.
Non, on est subjugué, il faut le préciser.
Exactement.
Et pour le charme,
et pour la jeunesse,
on adore.
Moi, j'aimerais juste savoir comment vous avez réagi quand, par exemple, en 2014, vous avez été élue femme de cœur de l'année et que lorsque vous avez reçu le grade de chevalier de la Légion d'honneur. Quelles émotions avez-vous ressenties à ce moment-là?
Alors d'abord, et puis il y en a un que vous avez oublié, parce qu'en 2007 j'ai eu l'ordre de mérite, donc ça a été la distinction qui m'a beaucoup touchée, parce que c'était la première fois que j'avais été distinguée en 2007, et pour marquer le coup, parce que moi j'aime retourner aux sources et puis être reconnaissant de ce qui m'a fait grandir, et j'ai voulu que cette distinction me soit remise à la mairie d'Aubervilliers à l'époque, donc j'ai fait venir tout TF1. D'ailleurs, les gens m'ont pas cru quand ils m'ont dit « Tu vas faire venir tout TF1 ?» J'ai dit « Oui, je vais les faire traverser le périph' parce que pour moi, c'est là où on doit me distinguer. » Donc j'en étais fière et puis j'ai pensé beaucoup à ma maman qui était à l'époque, mon père n'était pas décédé à l'époque, mais ma mère oui, donc j'ai beaucoup pensé à elle parce que voilà, c'est elle qui m'a donné cette force, etc. Et puis effectivement après ça a été rajouté par la femme de cœur et c'est exactement comme ça que moi-même je me définis, parce que il faut qu'on ait du cœur pour son prochain, sans jugement, sans rien, etc. Donc d'être choisie un jour par Coca-Cola, parce que c'est une distinction qui est offerte par Coca-Cola, qui choisit chaque année sa femme de cœur, alors qu'on on travaillait pas forcément énormément ensemble, etc. Donc j'étais très touchée par cette distinction. Et puis la Légion d'honneur, je dirais que moi je cours pas après les distinctions, parce que si on court après ça on fait rien.
On n'y pense pas.
Mais d'être reconnue et puis de la prendre un dimanche matin par un texto d'un ami qui me dit Samira t'es nommée, et là je lui dis arrête tes blagues, c'est franchement le 14 juillet mais oublie. Et là donc je me dis que ce soit les gens qui me nomment pour mon travail sans avoir rien demandé, je pense que c'est comme ça que tout le monde devrait l'obtenir, parce que c'est encore plus valorisant. Et puis ça montre que tout à chacun, on participe à la vie de la société, que tu sois politique ou pas. Moi j'ai jamais été encartée politiquement, mais ça m'interdit pas d'agir pour la société, quoi. Et ça c'est important pour moi.
20 secondes, Amadou.
Mais justement, je vais prendre la transition. La politique. Un jour, si jamais tu étais appelé, qu'est-ce que
parce que là, les ministres tombent comme des mouches. C'est la canicule, je sais pas.
Oui, parce qu'on se dit avec ce parcours, avec tout ce que tu fais,
c'est soit ça, soit la tête de Pôle Emploi. Un jour, il va falloir trouver du taf.
Peut-être même une autre question. Est-ce que tu as été approché déjà, ou est-ce que le jour où tu seras approché, est-ce que tu céderas aux sirènes de la politique?
Alors, 30 secondes pour répondre.
Alors, je n'ai jamais été approché, pour être honnête. Et puis, si je suis approché, pourquoi pas? Je veux dire, après, mon engagement, moi, à partir du moment où on me laisse, comme TF1 m'a laissé, moi-même, et agir, parce qu'à un moment donné, ceux qui savent, c'est les gens de terrain, quoi. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Hein. C'est ceux qui connaissent la température, c'est ceux qui savent ce qu'on peut ou pas faire. Pourquoi pas, si je dois être au service de mon pays pour aider mes prochains, pour aider les gens qui ont grandi dans les mêmes quartiers que moi et que je puisse apporter quelque chose, oui, avec un grand oui. Mais après, c'est dans quelles conditions et pour, bien sûr, quel ministère, etc.
Très fier, en tout cas, de vous avoir sur notre plateau, Samira Djouadi. Merci d'être avec nous. Vous restez pour les dernières minutes de l'émission. On va revenir après une petite respiration avec le transfert d'Antoine Griezmann qui peut être en train de capoter du côté du FC Barcelone. On va voir. Et puis on parlera de ce soir France-Espagne, c'est l'Euro des moins de 19 ans. À tout de suite dans Time Sport sur Beurre FM.
18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM.
Eh oui, on est déjà de retour. Ça vous change des plages de publicité de 23 minutes à l'époque de il y a quelques semaines. Voilà, 2 minutes, c'est réglé. On est de retour dans Time Sport. Les amis, on va parler d'Antoine Griezmann, le duel, c'est tout de suite.
Time Sport. Le duel. Le duel. Le duel.
Et pourquoi le duel, les amis? Vous allez me dire, hey, Griezmann, il est au Barça. Il a joué il y a 2 jours un match avec les Blaugrana contre, c'était Chelsea, si je ne m'abuse. Chelsea. Défaite 2-1.
Oui.
Voilà. Avec un super but d'Ivan Rakitic, d'ailleurs, pour le FC Barcelone. Si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle de Juan José, qui est à ma droite et à qui je vais poser la première question. Juan José Javier Tebas nous a dit « Je peux bloquer la licence d'Antoine Griezmann au FC Barcelone parce que, voilà, semblerait que le FC Barcelone ait réellement approché Antoine Griezmann avant la date fatidique du 1er juillet pour le faire signer donc en Catalogne. Auprès, en tout cas, ils ont contacté, ils sont pas passés par l'Atlético Madrid. Ça se fait pas. Ça se fait pas en Espagne. Il semblerait que c'est pas possible. On peut pas parler à un joueur tant qu'il est pas officiellement quitté un club.
Mais pas qu'en Espagne. C'est réglementation UEFA, FIFA. Donc, on ne peut pas approcher un joueur qui est sous contrat avant 6 mois. Alors, la fin de leur contrat.
La vraie question, c'est un faux ou un top.
C'est le cas de Rabiot. Vous souvenez de Rabiot,
c'est vrai.
Vous pouvez pas avec avant le 1er janvier de cette année, même si il pouvait y avoir d'autres contacts. Libre.
Alors, c'est vrai. Alors, un faux ou un tox, Javier Tebas, il va nous le bloquer ou pas, Antoine Griezmann?
Il y a un peu d'infos, mais il y a beaucoup d'intox. Un exemple.
On se tire une balle dans le pied, si on fait ça.
Javier Tebas est le même que lors de la signature du contrat de Neymar au PSG avait annoncé qu'il n'allait pas donner suite à cette contrat parce qu'il y avait un document qu'il fallait être signé par la Fédération espagnole et qu'il n'allait pas le signer. Il l'a signé, bien sûr, il pouvait le retarder, mais à la fin, il est obligé de le faire. En fait, c'est vrai qu'il ne peut pas être approché. Il y a une demande qui a été faite par l'Atlético de Madrid, puisque en jeu, il y a 80 millions d'euros entre les 200 millions d'euros qu'il aurait dû payer avant le 1er juillet et les 120 qui ont été payés après.
La clause, il faut rappeler pour nos auditeurs, la clause a été abaissée, réduite
à 120 millions
à 120
le 1er
millions.
Juillet, sinon c'était 200 millions. Donc effectivement, mais c'est un contentieux juridique maintenant qui va ou bien trouver un accord entre l'Atlético de Madrid et le Barça ou qui ira devant les tribunaux. Mais effectivement, la partie info, c'est vrai que Tebas peut retarder tous les documents qui permettent à Griezmann de jouer officiellement avec le FC Barcelone. Pour l'instant, il ne joue que des matchs amicaux. C'est son premier match, un match amical. Hein. Il est en tournée, ce n'est pas un match officiel.
Oui.
Mais la partie intox, c'est que bien sûr, ce n'est pas Tebas qui va embêter, on va le dire comme ça, le FC Barcelone, qui est l'un des premiers clubs espagnol et de sa Liga.
On a un peu envie de lui dire pourquoi Tebas.
Tu
nous dis ça dans la presse alors à ce moment-là.
C'était
déjà
dans les années 70. Hein, c'était le film. Non mais donc il y a une partie d'info et d'intox, mais surtout d'intox. Mais le fond de la question, c'est 80 millions. Est-ce que l'Atlético a droit à toucher ces 80 millions d'euros qu'il n'a pas touché?
Farid, 80 millions plus 2 joueurs, ils peuvent faire venir Neymar à l'Atlético.
Oui, tout à fait. Tout à fait, mais moi j'y crois pas trop quand même. Je pense que quoi qu'il arrive, Barcelone devra peut-être faire un geste à l'Atlético Madrid, mais je vois pas Griezmann d'une part retourner à l'Atlético Madrid maintenant qu'il a signé, porter le maillot et jouer sous les couleurs du Barcelone. Et voilà, Griezmann a dit haut et fort qu'il était maintenant
un joueur de Barça
et qu'il voulait jouer avec Messi entre autres. Donc au grand pire, Barcelone devra s'aligner ou faire un geste à l'Atlético Madrid.
Ça va d'où ? Faut enlever toutes ces clauses,
Est-ce que ce serait pas la bonne solution ? Est-ce que ce serait pas la bonne solution ? Mais après, comme un contrat est fait entre deux parties, elles peuvent aussi s'accorder sur ce qu'elles veulent au niveau des clauses. Mais je crois que ça tue un petit peu les relations. Ça tue un petit peu les j'allais pas dire les relations contractuelles, ça, mais ça tue un petit peu les liens qu'il peut y avoir entre les clubs et les joueurs. Le joueur est déjà asservi, je pense.
Il est, T'exagères un petit peu, l'asservissement quand même, au salaire où il est,
je me reprends, c'est peut-être un peu excessif, mais je dis que quand même, il y a une certaine contrainte qui est faite au niveau des contrats. Rajouter cette clause, ça en rajoute encore une seconde, ce qui fait que le joueur, alors bien sûr, on l'a répété encore ici, on n'est pas au pays des bisounours, avec les sommes que les joueurs gagnent, bah, ils ont peut-être effectivement droit à avoir certaines contraintes, mais arriver à des choses comme ça, alors le joueur part, on va le menacer de repartir, ce qui est carrément invraisemblable.
Ridicule, en plus.
C'est ridicule. Donc pourquoi ne pas supprimer ces clauses libératoires ?
Moi, je suis pas vraiment favorable à enlever toutes ces clauses parce que déjà avant il n'existait qu'un seul mercato, maintenant on en a deux. Si on enlève toutes ces clauses, ça va être du grand foutoir, désolé du terme, mais entre les clubs, entre les joueurs, on va plus pouvoir suivre la planète du football. Donc normalement, Barcelone aurait dû respecter les clauses du contrat avec l'Atlético.
Samira Djouadi, vous êtes un petit peu football, vous, à la maison, ou pas ?
J'ai un mari qui est très, très, très football, mais effectivement, quand on...
Attention, il est pour qui ?
Alors, il est pour qui, hein ? Bon, d'abord, il était pour l'Algérie.
Ça, c'est pour bon, déjà,
on s'est réveillé la bonne
décision.
Du couche encore, voilà.
Ils ont gagné. Voilà. Salut Riyad Mahrez, qui est né dans le même hôpital que moi. Ça
ah ouais.
Je l'embrasse.
Et il s'accroche à tout, lui. Ah, hein. C'est ça. Ça.
Écoute, il y en a, ils font de la pub pour Aubervilliers. Moi, je fais de la pub pour ma crèmerie.
S'il peut appeler en direct.
S'il peut nous appeler, d'ailleurs, Riyad, Riri.
C'est clair, c'est clair.
Samira, à vous.
Donc, oui, non. Après, moi, avec beaucoup de recul, quand je vous écoute et quand on lit la presse, on est dépassé par tout ce qui se dit, par tout ce qui fait. Ça, on a l'impression d'être dans une autre planète. Hein. On parle de chiffres qui, limite, il y en a, on ne sait plus combien il y a de zéros derrière, etc. Et puis, on parle de jeunes, quoi. On parle de jeunes. Moi, qui me bats tous les jours pour ces jeunes, pour qu'ils réussissent, etc. On voit bien qu'il y a deux mondes, quoi, en parallèle. Et on n'a pas les mêmes valeurs, même si on parle de valeurs, machin, etc. On voit bien que les valeurs, elles sont pas dans le même curseur, quoi.
C'est des jeunes dont vous aurez envie de vous occuper.
Ah ouais, pour transmettre les valeurs, pour transmettre le je dirais le bon sens, quoi. Après, qui gagne de l'argent, s'ils gagnent de l'argent, moi je m'inquiète pas. C'est que les clubs, ils en gagnent énormément.
Évidemment.
Attention, hein, faut remettre les choses au clair. Si eux, on les paye à ce prix-là, c'est parce que le club en gagne énormément. Mais à un moment donné, c'est comment remettre de l'humain dans tout ça, quoi. En plus, on parle d'une discipline qui est la plus populaire au monde, partout au monde.
C'est ce qui est paradoxal.
On sait jouer au foot, c'est le paradoxe de cette discipline. Et en même temps, on a l'impression d'être complètement à côté de la plaque parce qu'on ne parle pas la même langue, parce que ça prend des proportions de dingue, etc. Donc, comment remettre les choses au niveau ? Bien sûr, le foot, ça doit continuer à exister. On l'a vu pendant la Coupe du Monde féminine. Vraiment, les familles qui sont allées dans les stades, ça a été juste extraordinaire de voir ça, quoi. De se dire, Ça l'a permis, les gens étaient heureux d'aller. Moi, combien de gens m'ont dit, mais déjà d'être au Parc des Princes, quoi. J'ai jamais mis les pieds au Parc des Princes. Nous, on a distribué avec Sportavi, en partenariat avec l'organisateur de la Coupe du Monde, presque 36 000 places partout. Bravo. En France. Et ben moi, j'étais heureux de voir que des familles qui n'avaient jamais mis les pieds dans un stade, ils mettent les pieds, d'être là en famille, de vibrer, etc. Est-ce qu'on peut pas remettre tout ça au niveau, quoi.
Mamadou, une minute et après on passe au mode précis.
Mais il faudrait peut-être faire un appel du pied à la Fédération Française de Football. Pourquoi pas ne pas instituer un programme, parce que la Fédération Française de Football ou la Ligue Professionnelle de Football, dans les centres de formation, et avoir des modules, comme on a des modules sur plein de choses, pour de l'accompagnement.
Ça s'appellerait Foot à vie.
Mais alors, en fait, faut monter à la FIFA là.
On ira à la FIFA alors. Par contre, faut envoyer Alex. Alex, il veut rentrer partout. Alors, il faut l'envoyer. Alex, en fer de lance pour lancer le programme Foot ta vie.
Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas ?
Exactement.
Oui, tu disais, Manu, c'est tout ?
J'ai
alors le mode pressing.
Time Sport, le mode pressing.
C'est l'autre demi-finale de cet Euro U19, France-Espagne. La première demi-finale a vu le Portugal s'imposer face à l'Irlande 4-0. France-Espagne, c'est tout à l'heure à 19h. C'est un peu la bête noire, hein, l'Espagne, de l'équipe de France de manière générale, mais surtout chez les jeunes. Juan José, bon, je me dirige vers toi, évidemment. Toi, tu vois bien sûr l'Espagne s'imposer, mais pourquoi ? C'est ça le plus important. Qu'est-ce qui ferait que, selon toi, ils peuvent s'imposer ? Est-ce que tu as un petit peu regardé cet Euro U19 ? Oui.
Alors pourquoi ? Bah déjà parce que dans les confrontations France-Espagne à ce niveau, à cette catégorie, les deux dernières compétitions ont été remportées par l'Espagne. C'est l'Espagne qui a éliminé la France. Puis parce qu'il y a à peine quelques jours, quelques semaines, dans les U21, l'Espagne avait éliminé en demi effectivement à nouveau la France et remporté le championnat d'Europe. Mais au-delà de tout ça, c'est que depuis une quinzaine d'années, toutes les sélections espagnoles des jeunes, elles jouent toutes pareil, ils jouent de la même façon, ce qui fait qu'effectivement du moment où tu as des jeunes qui sont bons en U16 ou U17 ou U18, au même temps qu'ils augmentent dans la catégorie ils continuent à jouer de la même façon, continuent à jouer ensemble, et ça crée du collectif, ça crée de l'équipe. Aujourd'hui, cette équipe d'Espagne a des joueurs, il y en a trois notamment.
Donne-nous les noms.
Il y a Brian qui est à Barcelone, je crois. Il y a Gil, il y en a un qui est à Dortmund, l'autre qui est à Barcelone. On parlait des jeunes du côté de Barcelone. Hein. La base des équipes des jeunes en Espagne aujourd'hui, c'est le FC Barcelone. Hein.
Donc il y a un savoir-faire qui existe toujours, qui est toujours présent. Il y a un savoir-faire
qui existe toujours, qui est très présent. C'est des jeunes qui ont l'habitude de jouer ensemble et qui ont intégré aussi la gagne. Ils savent qu'ils peuvent gagner. Et malheureusement, pour certaines équipes des jeunes, notamment les équipes françaises, ça n'a pas du tout été intégré. La France est un pays qui a des jeunes à un moment donné, des jeunes, des catégories de jeunes qui promettent beaucoup, mais tout d'un coup, c'est le creux de la vague, et pendant X années, on voit plus du tout les jeunes. Alors, la France a gagné deux Coupes du Monde, d'accord, mais parfois, on se pose la question, comment ? Parce qu'effectivement, on voit rarement des générations de jeunes arriver en première équipe, ce qu'on voit, très souvent du côté espagnol.
Mamadou, tu as 30 secondes.
30 secondes. Mais en fait, ce que vient de soulever Juan José, c'est très important parce qu'on parle toujours de la formation à la française. On la met toujours en haut. Bon, il y a des exemples avec Kylian Mbappé et autres.
En fait, on forme bien, mais pas dans le jeu techniquement. Il n'y a pas de régularité dans le jeu.
Surtout l'expression collective. Et ce qu'il vient de dire là, il vient de dire qu'on récupère les mêmes catégories d'âge et elles montent ensemble. Et ça, c'est formidable. Et on n'en parle pas assez. Et on met souvent le focus sur un joueur, sur un Mbappé qui va éclore, sur un Dembélé qui va éclore. Mais on parle toujours de la formation française en individualité. Alors qu'en Espagne, c'est le cas. C'est toujours une forme d'expression collective et de progression collective. Et c'est le paradoxe. Et souvent, c'est vrai qu'on se cache souvent derrière ces individualités-là. Et l'Espagne, pour le coup, quand elle gagne en catégorie de jeunes, c'est normal. Parce que collectivement, ils sont mieux formés et ils sont plus forts.
Eh bien, merci, Mamadou. Ce sera le mot de la fin. Farid, Rouas, Mamadou, Lamine Mané, Juan José, Dorado étaient avec nous. C'était les chroniqueurs du jour. Et Samira Djouadi, merci encore d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite dans Time Foot et sur Beurre FM, bien sûr.
18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM.